séance de Nicolas Frise à Radio Grenouille.
Maintenant !
Marie Cartier est sociologue. Elle est l'auteur d'un ouvrage de référence intitulé « Les facteurs et leurs tournées ». Voici un entretien réalisé par Julie Demuère. Et Marie Cartier nous explique tout d'abord les raisons du choix de son sujet, la poste et les facteurs.
Je dirais pour deux raisons. D'abord, j'ai commencé cette enquête peu après le mouvement social de décembre 1995, qui était un des mouvements sociaux les plus importants en fait en France depuis mai 68 et qui avait rendu très visible ces salariés des services publics. Donc il y avait les postiers, mais aussi les cheminots, etc. Et je pense que c'est un peu dans ce cadre, dans ce contexte et cette actualité que m'est venu un intérêt pour ces petits fonctionnaires, si on peut dire, sans sous-entendre du tout aucune connotation méprisante au terme de petits, mais parce que c'est souvent des salariés qui occupent quand même des emplois d'exécution. Voilà, donc ça, c'est une première raison. Et ensuite, tout simplement, j'ai commencé assez vite à faire du terrain dans un bureau de poste. Et là, je dois dire que j'étais assez passionnée par les tournées de facteurs, notamment parce que j'y ai découvert une sociabilité dont je soupçonnais moi-même pas l'existence. Selon le mode de vie, le mode d'habitat qu'on a, on n'a pas forcément des relations régulières et intimes avec son facteur. Mais quand on passe de l'autre côté et qu'on suit le facteur en tournée, on se rend compte qu'il y a de multiples échanges de diverses natures et que du coup, ça en fait un travail assez vivant. Et je crois que ça m'a tout de suite à la fois surprise et intéressée. Et c'est pour ça qu'ensuite, j'ai voulu poursuivre l'exploration de ce métier et de ses transformations.
Alors, en lisant votre livre, j'ai été assez étonnée de constater que vous rappelez que coexistent depuis bien longtemps la dimension de service public et la dimension industrielle et commerciale. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu les évolutions du service postal et notamment cette coexistence dont on a souvent la tentation de la situer comme étant un produit des années 80?
Alors, c'est vrai que la poste, un autre exemple qu'on pourrait prendre comme activité de ce type aussi, c'est les tabacs, qui ont aussi été longtemps gérés par l'État. Et donc, c'est des activités qui ont été gérées par l'État, mais qui d'emblée avaient aussi une nature industrielle et commerciale. Et d'ailleurs, la formule qui valait pour les tabacs ou comme pour la poste, c'était celle de service public industriel et commercial. Et donc ça, c'est quelque chose qui est présent au moins depuis le début du 20e, mais qui s'est concrétisé de façon assez progressive. Et donc, bon, c'est présent dès le départ, aussi dans les modes de gestion du personnel. Mais ce qui s'est passé dans une période récente, c'est que ça a joué sur le statut même de l'entreprise. Et là, donc, les dates, c'est 1990, la réforme qui crée une entreprise publique de la Poste, alors qu'avant, ça avait le statut d'administration. Donc, je trouve important aussi pour saisir dans sa spécificité cette activité, de savoir que depuis longtemps, c'est un service public industriel et commercial. Par exemple, pour prendre l'exemple des facteurs, depuis longtemps, depuis même le début du siècle, les facteurs peuvent être amenés à vendre des timbres durant leur tournée. Ça a toujours été présent. Néanmoins, il y a bien eu des changements plus récents. Donc, c'est vrai que là, la période où tout ça s'implante, c'est les années 80. Je dirais dans la façon de faire du commercial. Ce que donne bien à voir la poste, c'est qu'on pourrait dire qu'il y a commerce et commerce. Et si ces activités commerciales ont toujours été présentes dans ce que faisaient les facteurs, dans les années 80, elles sont devenues présentes d'une autre façon. En particulier, avant, les facteurs, ils vendaient des produits comme par exemple des timbres en réponse aux besoins des usagers dont ils distribuaient le courrier. Et le changement de définition et la nouvelle façon de faire du commercial, c'est l'idée qu'à partir des années 80-90, il y a eu de plus en plus de pression et de dispositifs de management aussi visant à les inciter à vendre d'une façon, on va dire, je sais pas, plus offensive, etc. Et plus un type de vente qui serait juste répondre aux besoins quand ils se présentent, mais au contraire être plus dans, je dirais, créer le besoin, présenter sans arrêt des produits, etc. Et donc ça, je trouve que l'activité postale et les facteurs en particulier, on voit bien comme il y a différentes façons de faire du commerce et que ce qui s'est passé dans une période récente, c'est plutôt qu'il y a eu une modification de la place de ces activités commerciales. Elles se faisaient aussi un peu, comme j'ai dit, à la fois à la demande du client, mais aussi à la demande du facteur lui-même. Quand il y avait une possibilité de vendre tel ou tel produit postal, on le vendait. C'est devenu de plus en plus une tâche obligatoire, une tâche valorisée par rapport aux autres. Donc c'est plutôt ça qui a changé au niveau de la définition de l'activité commerciale, plutôt que sa présence qui en fait est ancienne à la Poste.
Alors justement, pour revenir sur la manière dont les facteurs vivaient leur métier et le sens qu'ils pouvaient y donner, vous évoquez dans votre travail des liaisons donnant sens à la notion de service public chez les différentes générations de facteurs. Pour plusieurs générations, vous suggérez que les perméabilités avec des valeurs de la culture populaire, puis pour les générations suivantes, le positionnement en tant qu'intermédiaires sociaux ou militants, ont permis une certaine identification au métier. Et pour les nouveaux facteurs, disons à partir des années 90, le sens donné au métier et à sa fonction semble plus flou, plus contrasté. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette partie importante de votre travail ?
C'est vrai qu'une des choses que mon enquête a révélées, c'est la transformation en fait, des caractéristiques sociales des individus amenés à exercer ce métier de facteur. Et la génération la plus ancienne que j'ai repérée, qui était entrée dans le métier dans les années, fin des années 50, 60, jusqu'au début des années 70, c'était d'une part principalement des hommes, souvent d'origine rurale, ouvrières et ou paysannes, et qui avaient donc un rapport très positif à ce travail de facteur qui représentait pour eux une forme de réussite sociale. Et dans leur façon d'exercer le métier de facteur, dans sa façon d'exercer le métier de facteur, cette génération-là, on voit qu'elle s'approprie un peu le service public, ce service public de distribution du courrier, en lien avec des valeurs populaires. Et en particulier, on repère beaucoup dans la façon d'être facteur de ces anciens une forme de sociabilité de quartier, des échanges avec les résidents. Alors bon, c'est un peu un stéréotype, mais en même temps, ça dit quelque chose de vrai autour de... On boit un verre, on discute un peu, etc. C'est vraiment une forme de sociabilité qui est assez caractéristique de cette génération des anciens, ou pour être plus précise aussi un autre type d'échange, l'échange de blagues. Ça, c'est frappant, c'est aussi un mode de relation sociale qui est très présent dans les cultures populaires, l'échange de plaisanteries. Et ça aussi, la figure du facteur bout en train, on la trouve dans cette génération d'anciens. Et donc là, pour reprendre l'histoire du recrutement, donc c'est lié à des grandes transformations économiques et sociales. Petit à petit, on va avoir un recrutement des facteurs plus sélectif socialement, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens d'origine moins populaire, moins rurale, et aussi, ça c'est lié à l'histoire de la scolarisation, des gens de plus en plus diplômés. Et donc il y a une génération un peu intermédiaire recrutée entre le milieu des années 70 et le début des années 80, qui là est un peu difficile à saisir. C'est une génération qui est plus féminisée, dont le rapport au métier, se caractérise à la fois par des traits traditionnels qui renvoient à l'ancienne génération et aussi par des éléments de nouveauté. Mais bon, le contraste le plus important, c'est à partir de 83, ceux que j'ai appelés les nouveaux facteurs, qui sont majoritairement des bacheliers, alors qu'anciennement, c'était un métier accessible à des individus peu qualifiés. Enfin, la génération des anciens, c'était le certificat d'études primaires. Et ces facteurs bacheliers, parfois plus aussi, on trouve aujourd'hui beaucoup de facteurs qui ont fait des études à l'université, ont un rapport au métier qui est moins positif que celui des anciens. Pourquoi ? Parce que les études qu'ils ont faites leur avaient donné à espérer... des emplois peut-être, comment dire, avec plus de responsabilités, etc. Et donc, pour ces individus-là, parfois, devenir facteur, c'est une forme de déclassement social. J'ai souvent été frappée par le fait, par exemple, que pour les anciens, c'était valorisé et valorisant que de travailler dehors et d'être au contact de la ville. Ou, au contraire, pour ces nouveaux facteurs, il y a parfois un sentiment de honte à être dehors, tout simplement parce que c'est comme si le déclassement social était rendu visible aux yeux de tous aussi. Et donc, ces nouveaux facteurs sont dans un rapport au travail où on rencontre beaucoup plus de méfiance et aussi une forme de réglementarisme dans la façon de distribuer le courrier qu'on rencontre moins chez les anciens qui, au fil d'interconnaissance et de sociabilité avec les usagers, sont au contraire ces facteurs qui essaient d'arranger les habitants, enfin, par exemple autour de la distribution des recommandés, etc. Dans les nouvelles générations, le malaise un peu à occuper cet emploi se traduit aussi par des usages un peu plus rigoristes du règlement et par plus de distance. Et donc, cette sociabilité, un peu, elle se perd un petit peu. Cela dit, il faut aussi être nuancé. On trouve des gens, des nouveaux, qui s'ajustent à ce métier. Je pense en particulier à un facteur que j'avais rencontré, entré dans le métier plutôt dans les années 80, et qui, contre justement la tendance à cette dépersonnalisation des relations entre facteurs et usagers, se faisait lui un honneur de maintenir cette sociabilité à tout prix dans les quartiers populaires de grands ensembles où c'est là qu'elle disparaît souvent le plus. Tout simplement aussi parce que, alors c'est assez compliqué, mais il y a une sorte de circulation des facteurs entre les différentes tournées. Et les tournées de grands ensembles sont souvent laissées aux facteurs débutants, aux facteurs les moins expérimentés. Il se passe en fait un peu ce qui se passe aussi à l'école du côté des enseignants. Et donc ce facteur-là que j'évoquais, lui, contre cette tendance, il essayait de rendre un service personnalisé à ces gens qui habitent les HLM. Et je l'avais accompagné en tournée et j'étais frappée par la satisfaction des gens qui disaient « ils nous donnent le courrier à la main, par exemple ». Ça voulait dire donner le courrier à la main qu'en fait, ils les connaissaient de vue. Alors que ces habitants des quartiers populaires, ils ont souvent l'impression d'être délaissés, stigmatisés par les administrations. Et donc, on se rendait vraiment compte à suivre ce facteur, combien ça pouvait avoir un prix important pour des gens comme ça, de milieux défavorisés, que d'être connus du facteur. Et donc, je disais juste ça pour dire que même s'il y a ce mouvement un peu de désajustement par rapport à ce métier, de déclin un peu de la sociabilité de quartier, on trouve des nouveaux facteurs qui, contre vent et marée, essaient quand même de la maintenir, quoi. Mais au niveau de la succession des générations, c'est un peu ça que j'ai mis au jour. L'idée que petit à petit, l'évolution des caractéristiques sociales des gens qui sont amenés à faire ce métier induit aussi une forme de déclin d'une sociabilité de quartier autour du courrier. Et donc, bon, il n'y a pas que ce facteur-là qui intervient, il y a aussi toutes les transformations urbaines qui contribuent aussi à ce phénomène.
En tout cas, ce que vous dites relativise finalement la place de l'évolution de l'entreprise elle-même sur justement une culture de sociabilité qu'on a tendance justement à assimiler à une culture de service public.
Alors, je dirais oui et non, parce que, comment dire, cette transformation des caractéristiques sociales des recrues, elle a aussi été accompagnée par l'entreprise La Poste, qui tout d'un coup c'est dit, par exemple, que avoir des gens plus diplômés, c'était mieux. Finalement, ça donnerait une meilleure image de La Poste, etc. Donc, ce mouvement, il a aussi été encouragé par l'entreprise, quitte après à se rendre compte que ça posait des problèmes terribles dans les bureaux, puisqu'on s'est trouvé avec, par exemple, des décalages de ressources scolaires entre le personnel d'exécution et les chefs, parfois très importants, avec des chefs, en fait, moins diplômés, bien moins diplômés que les gens qu'ils avaient encadrés. Mais sinon, la Poste a quand même accompagné ce mouvement. Et je pense aussi, en se rendant pas compte, enfin, comment dire, en se rendant pas compte que ces facteurs d'origine populaire, etc., ils avaient aussi leur manière propre de fabriquer un service public ouvert et accessible à tous. J'ai toujours gardé en tête ce propos d'une factrice qui disait que, racontant tous les petits services qu'elle rendait aux familles autour du travail administratif ou des papiers, etc., elle avait eu cette formule, elle disait une factrice est toujours mieux accueillie dans les familles populaires qu'une assistante sociale. Et donc ça renvoie bien à l'idée de l'accessibilité à de larges milieux, de ce petit fonctionnaire qu'est le facteur, et en encourageant aussi cette évolution des caractéristiques sociales du personnel, on rend moins possible ces formes d'assistance de certaines populations, mais de façon indirecte, parce que voilà, le facteur, c'est pas l'assistante sociale. Il y a peut-être moins d'humiliation à être aidé dans sa vie quotidienne par le facteur qui, entre deux blagues, donne un coup de main, que par d'autres fonctionnaires qui incarnent davantage l'État. Et du coup, voilà, donc l'entreprise, elle a aussi laissé encourager cette évolution des caractéristiques sociales des recrues, avec l'idée, oui, voilà, l'idée aussi, c'était que comme il y avait toujours le souci de donner une place de plus en plus importante aux tâches commerciales, il y avait l'idée que finalement, voilà, ces facteurs plus diplômés, plus présentables, etc., seraient peut-être aussi de meilleurs vendeurs. Et donc, c'est là aussi qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur qu'est-ce que c'est le service postal, à quoi ça sert, etc., quoi.
Alors, le sous-titre de votre livre est « Un service public au quotidien ». Est-ce que la notion de service public est quelque chose qui est souvent évoqué par les facteurs ?
Alors, j'ai en fait été étonnée de la rencontrer peu dans les discours même que les facteurs tiennent sur leur travail. On la rencontre bien sûr chez les syndicalistes qui sont engagés dans les luttes aujourd'hui, qui opposent ceux qui veulent moderniser entre guillemets le service public, puis ceux qui veulent le défendre. En revanche, je l'ai rencontrée, je dirais plutôt à l'état pratique. Alors, je pourrais reprendre ce facteur, là, l'exemple de ce facteur qui s'appelait Bruno, facteur dans les grands ensembles, qui, en voulant à tout prix essayer de rendre un service égal à tous, et en particulier en essayant de traiter les habitants des quartiers populaires aussi bien et avec autant d'humanité, autant de petits égards que les habitants des centres-villes ou les commerçants des centres-villes, qui sont souvent des gros clients de la Poste. Pour moi, c'était une forme de service public en acte, une façon, dans sa façon d'être facteur, de faire du service public. Donc, sans que tout ça s'accompagne forcément de beaucoup de discours idéologiques autour du service public comme valeur, etc. Et un autre exemple que je donnerais, c'est un facteur qui... Là, c'était par sa façon d'appliquer le règlement, il se trouvait qu'il avait sa chef sur sa tournée. Alors, c'était une sorte de hasard, heureux ou malheureux, mais il appliquait le règlement de façon aussi stricte à sa chef qu'à tous ses autres clients. Et du coup, là aussi, c'était une façon de revendiquer par un usage du règlement indifférent aux différences de statut social, une éthique du service public. Et donc voilà, je dirais qu'on, dans les façons de distribuer le courrier, on rencontre un esprit de service public, ce qui ne va pas forcément avec, à côté, de grands discours sur la défense du service public.
Marie Cartier, merci. Je vais rappeler les références de votre livre, donc Les facteurs et leur tournée, un service public au quotidien. C'est paru aux éditions de La Découverte en 2003, je crois. Et merci encore.
Merci à vous.
Maintenant!
Rejoignez-nous www.maintenant.org.